en famille avec Zour sur Radio Orient.
Dans un monde où les réseaux sociaux dictent souvent ce que devrait être une bonne mère, beaucoup de femmes se retrouvent sous pression. Maison impeccable, enfant toujours souriant, routine parfaite, corps sans défaut. Mais derrière ces images lisses, il y a des réalités bien plus complexes, parfois douloureuses. Aujourd'hui, nous discutons ce sujet avec notre invitée Doha Hassouni, coach parental et familial, pour comprendre comment cette quête de perfection influence la santé émotionnelle des mères, leur rapport à la parentalité et leur estime d'elles-mêmes. Merci beaucoup Doha d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour ma chère Zohour, bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs sur les ondes de Radio Orient. Toujours un plaisir d'être parmi vous et merci pour le choix du sujet.
Tout d'abord, d'où vient selon vous cette image de la maman parfaite qui envahit les réseaux sociaux ?
On voit bien, depuis longtemps, les sociétés projettent sur les mères une forme d'idéal. Il faut être aimante, disponible, patiente, organisée, épanouie, souriante et souvent tout cela en même temps. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la vitesse et l'intensité avec lesquelles cet idéal circule. Les réseaux sociaux fonctionnent, bon, je pense qu'on le sait toutes et tous, fonctionnent sur la visibilité. Et ce qui est visible, ce n'est généralement pas le quotidien brut, répétitif, fatigant, parfois même chaotique de la parentalité. Ce sont des instants qui sont soigneusement sélectionnés. Une chambre rangée, un goûter équilibré, une sortie harmonieuse, une mère souriante malgré 3 heures de sommeil. Et je ne dis pas que c'est... ce n'est pas forcément mensonger, mais c'est fragmentaire. On montre des moments bien choisi et non pas la totalité de la réalité. Alors, d'un point de vue maintenant psychologique, il faut aussi comprendre que beaucoup de mamans publient des contenus avec des intentions sincères. Partager de la joie, créer du lien, trouver de la reconnaissance parfois et reprendre peut-être confiance dans une période très vulnérable de sa vie. Mais les plateformes, elles favorisent davantage les contenus esthétiques, performants, inspirants. Et les algorithmes amplifient davantage une certaine représentation de la maternité, c'est-à-dire une représentation plutôt maîtrisée, productive, douce et surtout belle à regarder. Bon, ça dépend des plateformes. Si on prend par exemple Instagram, bon, on cherche surtout l'esthétique. Il y a également un phénomène neuropsychologique qui est très important. Notre cerveau compare, on est humain, donc notre cerveau compare spontanément. C'est un mécanisme humain, ancien, qui est lié à l'appartenance sociale et à l'évaluation de soi. Mais lorsqu'on est exposé pendant plusieurs heures par jour à des images filtrées et répétées d'une parentalité idéalisée, le cerveau finit par les percevoir comme une norme et non comme une exception. Et c'est là que la souffrance peut commencer. Il y a quelque chose de profondément sensible dans la maternité. Beaucoup de femmes se demandent intérieurement, est-ce que je fais bien ? Ou est-ce que je fais assez bien ? Et les réseaux sociaux viennent souvent se greffer sur cette vulnérabilité qui est déjà existante. Donc, ils ne créent pas entièrement la pression, mais ils l'intensifient. Ils la rendent permanente, parfois impossible à fuir, malheureusement.
Quels sont les effets psychologiques les plus fréquents chez les mères qui se comparent à ces modèles idéalisés ?
La comparaison répétée peut avoir des effets très profonds, parfois invisibles de l'extérieur. Le premier effet, en tout cas que moi j'observe souvent pendant les consultations, c'est ce sentiment d'insuffisance. Alors beaucoup de mamans ont l'impression qu'elles ne font jamais assez bien, pas assez patientes, pas assez présentes, pas assez organisées et pas assez heureuses même. Ce qui est particulièrement difficile, c'est que cette comparaison touche une sphère extrêmement intime, le lien à son enfant. Donc quand une femme a l'impression d'échouer dans son rôle maternel, bah, ça peut atteindre directement son estime d'elle-même et son sentiment de valeur personnelle. Encore une fois, donc, psychologiquement, ça peut entraîner plusieurs conséquences, de l'anxiété, de la culpabilité, parfois même de la culpabilité chronique, de l'hypervigilance éducative. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je ne vais pas traumatiser mon enfant? Parfois même une forme d'épuisement mental où chaque décision devient source de doute. Et certaines mamans développent aussi ce qu'on appelle une autosurveillance permanente. Elles évaluent continue leur manière d'être maman, comme si elles se regardaient de l'extérieur au lieu de vivre simplement et réellement, de manière authentique, leur relation avec leur enfant. Ce que je vois aussi, c'est ce phénomène très documenté d'ailleurs en psychologie sociale, donc la comparaison ascendante. Lorsqu'on se compare à des personnes perçues comme meilleures, eh bien, cela peut parfois motiver, mais lorsque l'écart semble inaccessible, ça peut produire plutôt un découragement et une baisse de l'estime de soi. Et chez certaines femmes, notamment après un accouchement, période où le cerveau est déjà traversé par des bouleversements hormonaux, émotionnels et identitaires très importants, cette pression peut aggraver malheureusement une vulnérabilité anxieuse ou même dépressive. Il ne faut jamais banaliser cela. Derrière une maman qui dit par exemple « Écoute, je n'y arrive plus, je n'en peux plus », il y a parfois une grande solitude émotionnelle. Et paradoxalement, plus une maman souffre de cette comparaison, plus elle peut ressentir le besoin de montrer elle aussi une image acceptable, voire, bon, pour certaines, voire excellente d'elle-même en ligne. Et ça crée une boucle très difficile. On souffre des images idéalisées, mais on contribue parfois, malgré soi, à les reproduire malheureusement.
Doha, en quoi les réseaux sociaux renforcent-ils la pression sociale autour de la maternité et du rôle maternel ?
Les réseaux sociaux renforcent cette pression parce qu'ils abolissent les moments de répit. Avant, les normes sociales venaient surtout de l'entourage proche, la famille, le voisinage, l'école, la cousine. Aujourd'hui, une maman peut être exposée en permanence à des milliers de modèles parentaux et parfois dès le réveil, dès qu'on se lève le matin. Et cette exposition continue crée une sensation implicite de devoir être performante dans tous les domaines simultanément, nourrir sainement, stimuler intellectuellement son enfant, préserver son couple, rester professionnel, parce que oui, il faut avoir une activité pro, garder une vie sociale, prendre soin de son corps, gérer les émotions avec calme. Bon, tout ça finit par transformer la maternité en projet de performance plutôt qu'en relation humaine vivante et imparfaite. Il y a aussi, je pense que c'est aussi la base, cette dimension culturelle qui est très importante. Les réseaux sociaux, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils individualisent énormément la responsabilité parentale. Alors beaucoup de contenus donnent l'impression que tout dépend uniquement des choix de la maman. Alors qu'en réalité, la parentalité est profondément influencée par la fatigue, par la charge mentale, par le soutien social, par la précarité, par la santé mentale, par le contexte familial. Et quand ces réalités disparaissent des écrans, les mamans peuvent croire que leurs difficultés viennent uniquement d'elles-mêmes. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment, c'est très important à prendre en compte. Je finirai peut-être par un aspect voilà qui est très subtil. Aujourd'hui, la maternité est parfois vécue sous le regard imaginaire des autres. Alors certaines mamans racontent qu'elles pensent à la manière dont une scène pourrait être perçue en ligne, même lorsqu'elle ne publie rien. C'est-à-dire, je suis là, je vis ma vie et je me dis, ah là là, alors si je publie ça en ligne, comment cela pourrait être perçu? Et ça montre à quel point le regard social numérique peut s'intérioriser profondément.
Doha, comment encourager plus d'authenticité et moins de mise en scène dans le contenu parental en ligne?
Ah, sacrée question. Bon, j'espère que les influenceuses nous écoutent aujourd'hui. Encourager l'authenticité, je dirais que ça passe d'abord par plus de sécurité émotionnelle. Les personnes osent montrer leur fragilité lorsqu'elles sentent qu'elles ne seront pas ou ne seraient pas immédiatement jugées, culpabilisées ou attaquées. Et il serait aussi important de valoriser davantage les récits nuancés, parce qu'une maternité réelle n'est ni un désastre permanent, ni une perfection constante. C'est souvent un mélange de tendresse, d'épuisement, de joie, d'ambivalence, de doute, de croissance personnelle. Et quand des créateurs de contenu parlent de ces contradictions avec honnêteté, avec sincérité, cela peut avoir un effet très apaisant sur d'autres parents. Le fait d'entendre des expériences imparfaites mais humaines aide énormément à normaliser les difficultés ordinaires de la vie, du quotidien. Et ça réduit la honte. Et la honte est un facteur très puissant d'isolement. Peut-être aussi rappeler collectivement qu'un parent n'a pas besoin d'être parfait pour être sécurisant pour son enfant. Aujourd'hui, les travaux en psychologie du développement montrent depuis longtemps que les enfants n'ont pas besoin d'une perfection parentale. Ils ont surtout besoin d'un lien suffisamment stable, suffisamment aimant et suffisamment réparateur lorsqu'il y a des erreurs. Et c'est normal, on en fait toutes et tous.
Je sais que ce sujet concerne beaucoup de mamans qui nous écoutent aujourd'hui. Voyez-vous un lien entre cette quête de perfection et l'augmentation du stress et du burn-out parental?
Ah, mais très clairement. Et ce lien est aujourd'hui largement observé dans les recherches sur la santé mentale parentale. Le burn-out parental apparaît souvent lorsqu'il y a un déséquilibre durable entre les exigences perçues et les ressources disponibles. Alors que sur les réseaux sociaux, bon, on peut considérablement augmenter le niveau d'exigence intérieure. Certaines mamans ont le sentiment qu'elles doivent être émotionnellement disponibles en permanence, qu'elles doivent optimiser chaque moment éducatif, éviter toute erreur, tout en restant fonctionnelles dans les autres sphères de leur vie. Et cette quête de perfection est épuisante parce qu'elle ne connaît jamais de fin. Et même lorsqu'une maman fait énormément, elle peut continuer à avoir l'impression de ne pas être assez. C'est une forme de pression psychique continue. Voilà. Et ce qui rend le burn-out parental douloureux, c'est qu'il s'accompagne souvent d'une immense culpabilité. Et certaines mamans aiment profondément leur enfant, mais elles n'ont plus d'énergie disponible. Elles peuvent alors se sentir honteuses de leur fatigue elles-mêmes. Il est donc essentiel de rappeler peut-être que le problème n'est pas le fait d'aimer son enfant ou de vouloir bien faire. Le problème commence lorsque la parentalité devient un espace où on pense devenir ou devoir mériter sa valeur en étant irréprochable. Aucun être humain ne peut tenir durablement dans cette position.
Parlons maintenant de l'éducation. Comment aider les mamans à adopter une parentalité plus réaliste, plus douce, loin des injections numériques?
Alors, comment? Ben, je pense que d'abord, redonner aux mamans le droit d'être humaines. Ça peut paraître très simple à dire, mais beaucoup de femmes aujourd'hui ont intégré l'idée qu'une bonne maman doit constamment dépasser ses propres limites. Une parentalité plus réaliste commence souvent lorsqu'on accepte que les émotions difficiles, la fatigue, l'agacement ou le doute ne sont pas des preuves d'échec parental. Ce sont des expériences humaines, normales, dans une relation aussi intense et aussi engageante que la maternité. Et il est aussi important d'aider les mamans à différencier information et injonction. Aujourd'hui, elles reçoivent une quantité, mais immense, de conseils qui sont parfois même contradictoires sur le sommeil, l'alimentation, l'éducation émotionnelle, les écrans, l'allaitement. Et à force, certaines finissent par ne plus entendre leurs propres besoins, ni ceux de leur enfant d'ailleurs. Donc, retrouver une parentalité plutôt douce, normale, saine, c'est parfois aussi réapprendre à observer son propre contexte plutôt qu'essayer d'appliquer un modèle universel. Voilà, donc je pense que je l'ai dit, je le redis, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de relations suffisamment sécurisantes. Un parent qui sait réparer le lien, qui sait reconnaître sa fatigue, demander de l'aide ou poser des limites, tout ça transmet aussi quelque chose de très précieux à son enfant, qui est une humanité vivante et non pas une performance.
Et pour finir ce sujet très important, je suis sûre, Doha, pour les mamans qui nous écoutent ce matin, quels conseils concrets donneriez-vous aux mamans pour se protéger de la comparaison et préserver leur bien-être émotionnel?
Je dirais se rappeler régulièrement que ce qu'on voit en ligne, c'est une sélection. C'est comme quand on prend plein de photos et en fin de journée, on commence à sélectionner, on supprime, on garde. C'est la même chose. Ce n'est pas une réalité complète. Et même les personnes qui semblent parfaitement organisées vivent aussi des moments de fatigue, de conflit, de doute et de découragement. Le cerveau, malheureusement, oublie facilement cette évidence lorsqu'il est exposé. On continue à des images très maîtrisées. Peut-être que c'est utile aussi de faire un tri, et un tri conscient dans les contenus consommés. Bon, certaines pages inspirent, apaisent, donnent des informations utiles, c'est très bien, mais d'autres déclenchent systématiquement de la culpabilité ou un sentiment d'échec. Alors, écoutez votre état émotionnel après avoir passé du temps sur certains comptes. C'est déjà une forme importante de protection psychique. J'irai aussi aux mamans qui nous écoutent de réintroduire des repères réels dans la vie réelle. Comment ? En parlant à d'autres parents de manière sincère, en fréquentant des espaces où on peut entendre des expériences sans filtre, voir que d'autres parents vivent aussi des difficultés ordinaires, tout ça aide énormément le cerveau à retrouver une perception plus réaliste de la parentalité. Et puis, dernière piste, c'est d'apprendre à repérer certains signes d'alerte quand la comparaison devient obsessionnelle, quand on culpabilise constamment, quand on se sent épuisé émotionnellement ou incapable de profiter des moments avec son enfant. Dans ces cas-là, il faut demander du soutien, et demander du soutien n'est pas un échec. C'est souvent un acte aussi de protection très sain.
Merci à vous, Doha Hassouni, pour cet éclairage essentiel. L'image de la maman parfaite peut sembler séduisante, mais elle ne reflète jamais la richesse, la fatigue, la beauté et la vérité du quotidien. Rappelons-nous que la maternité n'a pas besoin d'être parfaite, mais être profondément aimante et authentique. À toutes les mamans qui nous écoutent, vous êtes suffisantes, vous êtes humaines et c'est déjà beaucoup. Merci à vous.
Merci beaucoup, ma chère Zohour, et merci à toutes les personnes qui sont restées avec nous jusqu'ici. Merci de votre écoute.
En famille, avec Zohour sur Radio Orient.